Chers amis, en écoutant ce texte de l'apôtre Paul à la communauté de Corinthe, nous pourrions être tentés, et cette tentation a toujours existé dans les communautés chrétiennes depuis les origines, tant elle est héritée d'une sorte de religiosité naturelle, tentation de penser que nous pouvons choisir de suivre le Seigneur sur la base de nos efforts, de nos engagements, comme les coureurs du stade, la tentation du pélagianisme, de croire que nous gagnons le salut ou les dons de Dieu à la force du poignet. Et l'Écriture tout entière, particulièrement l'Évangile bien sûr, nous enseigne qu'il n'en est pas ainsi. Nous ne saisissons pas Dieu, c'est lui qui nous saisit. C'est lui qui nous saisit. Et nous pourrions éventuellement faire mémoire les uns et les autres, comme je vais essayer de le faire avec vous, de nos histoires chrétiennes personnelles, de celles de grands personnages comme François d'Assise, pour comprendre que nous sommes saisis par Dieu, que nous n'avons pas choisi d'être disciples de Jésus. C'est Jésus lui-même qui a choisi que nous le soyons et que nous soyons encore là ce soir pour entendre sa parole, la partager et la prier. Il pourrait être beau pour nous de faire mémoire, vous savez, en lien avec le psaume 70e, « Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles. Au jour de ma vieillesse, des cheveux blancs, ne m'abandonne pas, ô mon Dieu, ne m'abandonne pas, c'est lui qui nous a choisis. » Alors je voudrais vous partager, j'en ai guère l'habitude et puis pas très favorable à l'abus des témoignages dans nos démarches pastorales. On a peut-être abusé trop des témoignages. Je me souviens de cette phrase de Michel Serre qui dit « C'est étonnant quand je rencontre un journaliste et que je m'apprête à lui parler de ce que je pense, j'ai le sentiment que ça ne l'intéresse pas, il a envie de savoir qui je suis plutôt que ce que je pense. Et moi j'ai envie de lui dire ce que je pense. » Donc il ne faut pas abuser de cette logique des témoignages, mais de temps en temps il faut accepter aussi peut-être de payer un peu de sa personne pour aussi donner un peu d'épaisseur ou de chair à ce que l'on essaie d'enseigner. Et je voudrais vous partager ceci, pourquoi je suis encore un peu attaché à François d'Assise et au charisme franciscain. Bien peut-être parce que quand j'étais jeune encore, ça s'est déjà dégradé depuis, j'étais jeune encore, j'avais 18 ans à peu près, et je me préparais à partir dans les années 75 pour un pèlerinage jubilaire à Assise et à Rome. Et on nous avait conseillé, dans le mouvement éducatif auquel j'appartenais, un certain nombre de lectures en préparation de cette démarche jubilaire de pèlerinage. Et j'avais choisi de lire cette biographie de saint François de Félix Timmermann, La harpe de saint François. Peut-être que certains d'entre vous l'ont lu. Je ne suis pas certain d'avoir encore en mémoire le genre littéraire ou les détails du récit de cette vie de saint François. Ce dont je suis sûr, c'est que le Seigneur m'a saisi à travers le témoignage d'un de ses disciples extraordinaires, mis en scène par cet auteur. Le Seigneur m'a saisi, mais saisi au sens pas seulement d'une démarche intellectuelle ou spirituelle, mais saisi au sens tout entier du terme. Il a saisi ma personne au point que mes parents venaient à s'inquiéter que je choisisse de dormir au pied de mon lit plutôt que dans le lit lui-même, et que je m'engage résolument dans un chemin un peu radical, mais si on n'est pas radical quand on est jeune, quand le devient-on, un peu radical de suite du Christ. Bien, je crois que nous pourrions les uns et les autres essayer dans ce temps du carême peut-être de faire mémoire de moments plus ou moins intenses au cours desquels le Seigneur sans doute nous a saisis. Non pas de faire mémoire d'un moment où, après un temps de réflexion, d'analyse, de textes complexes, d'accompagnement spirituel ou de réaction à une prédication brillante de notre prieur franciscain dans notre église conventuelle, nous avons choisi de suivre le Christ, mais de moments où le Christ nous a saisis lui-même. Et dans la vie de François d'Assise, et je voudrais y arriver assez vite, il y a manifestement, et son biographe en témoigne, ce moment où frère François a été saisi par un autre que lui, qu'il connaissait un peu parce que bien sûr il était inséré dans une tradition chrétienne, mais qui n'avait pas encore à ce point saisi son existence. Vous savez mieux que moi sans doute, puisque vous appartenez à cette famille franciscaine, qu'il s'agit de ce moment où François vit cette rencontre avec le Seigneur à travers sa rencontre avec le lépreux. Et il dit ceci: au temps où j'étais encore dans les péchés, la vue des lépreux m'était insupportable. François d'Assise, et comment ne le serait-on pas quand on connaît Assise et la beauté des paysages et de l'architecture, et cette beauté aussi que les hommes avec leur art ou leur artisanat ont associé à la beauté des paysages, comment ne serait-on pas, comme François d'Assise, un esthète? Alors cet esthète, François d'Assise, amoureux des beautés de la création et des beautés de ce dont les hommes sont capables à travers cette participation à l'œuvre créatrice du Seigneur, François d'Assise est trop choqué par la vision de ces chairs blessées qui sont celles des lépreux. La vue des lépreux m'était insupportable. Il ajoute, son biographe met cela sous sa plume et dans sa bouche, « Mais le Seigneur lui-même me conduisit parmi eux. » C'est le Seigneur qui le conduit. Ce n'est pas François d'Assise qui dit « Je suis chrétien, disciple de Jésus, il faut que j'aime les pauvres et les plus pauvres d'entre nous. » Le Seigneur me conduisit parmi eux. Je les soignais de tout mon cœur et au retour, ce qui m'avait semblé si amer s'était changé pour moi en douceur pour l'esprit et pour le corps. Pour l'esprit et pour le corps. François est saisi tout entier. Il s'agit, et de grands-pères de l'Église, non pas des grands-pères de l'Église, même s'il y a aussi des grands-pères dans notre Église, des pères de l'Église parmi les plus grands, ont fait allusion à ce moment tout à fait extraordinaire de nos vies chrétiennes, ce moment de conversion des sens. Origène y a fait allusion, mais aussi Bonaventure, Ignace de Loyola, Dieu s'étant fait corps, en appel à tout mon corps pour rencontrer mon frère et mon prochain. C'est par grâce de Dieu que celui qui nous semblait désagréable, que celui qui pour nous était un repoussoir, celui ou celle, parfois le plus proche de nous, tout d'un coup, par grâce de Dieu, il devient aimable. Nous sommes passés de l'amer au doux, comme François d'Assise. Au retour, ce qui m'avait semblé si amer s'était changé pour moi en douceur pour l'esprit et pour le corps. Voilà, frères et sœurs, parce qu'il s'agit de conversion des sens qui sont des fruits de l'action de Dieu. Voilà pourquoi nos liturgies chrétiennes font appel non seulement à l'intellect par le biais de l'écoute de la parole de Dieu ou par le biais de la prédication, mais nos liturgies chrétiennes font aussi appel au sens, à la beauté des chants, à la beauté de la liturgie, à l'odorat, à travers l'encens qui a été bien choisi. Nous sommes appelés par le Seigneur, et le Seigneur un jour vient nous saisir et nous transforme radicalement. nous rendre, nous qui étions parfois introvertis, certains chrétiens nous renvoient cela, nous disent, mais notre pape nous invite à être une église en état de sortie, mais moi je suis d'un naturel timide, d'un naturel introverti, comment pourrais-je devenir extraverti? Alors le Seigneur, avec nos limites, avec nos faiblesses, nous conduira vers les autres. Même le plus introverti d'entre nous, le Seigneur le conduira à la rencontre de son frère, de son voisin, d'un proche parent, de quelqu'un qu'il croise dans la rue, qu'il n'aurait jamais abordé peut-être quelques années auparavant, mais ce frère que je suis, introverti, peu habile en parole, va devenir capable d'adresser quelques mots à cet homme et d'échanger avec lui. Voilà les réalités extraordinaires que peut produire le Seigneur dans nos existences. Sans lui, nous sommes dans cette attitude fondamentale de Caïn par rapport à Abel, l'indifférence ou le meurtre. Qu'as-tu fait de ton frère ? Dit le Seigneur au fratricide. Qu'as-tu fait de ton frère ? Il n'en a pas pris soin. Il a été à ce point indifférent à lui, jaloux, haineux, qu'il a même fini par l'assassiner. Le Seigneur se fait l'un d'entre nous pour nous rendre par sa grâce attentifs aux plus petits de nos frères et sœurs, y compris à la plus modeste des fourmis, des créatures, attentifs à toutes les créatures par la puissance de la grâce de Dieu. Vous avez entendu dans ce psaume que nous avons médité, le psaume 113e, « Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom donne la gloire. » Qu'est-ce qui nous rend attentifs à la création et à ces sommets de création que sont nos frères et sœurs en humanité? C'est le Seigneur lui-même et c'est à lui que nous renvoyons cette gloire-là. Alors quel style de vie le Seigneur, parce que je crois que c'était un des domaines qu'on me demandait d'aborder aussi, quel style de vie le Seigneur voudrait nous voir emprunter à sa suite et par sa grâce dans ce temps de conversion qu'est celui du carême? En réfléchissant à cela, je me disais que le style de vie que le Seigneur veut pour nous, disciples de Jésus et disciples de Saint François et de Sainte Claire, c'est peut-être le style des marcheurs et des marcheurs joyeux, de ces hommes et de ces femmes qu'on voit passer sur ces chemins de Saint-Jacques, sur ces routes du Piémont, qui passent aussi par l'Ariège, avant de rejoindre Saint-Jean-Pied-de-Port, Ostabat, Saint-Jean-Pied-de-Port et ensuite Saint-Jacques. Il nous faut un style de vie sobre et joyeux. Que nous soyons des itinérants, des sortes de vagabonds, c'est Saint Paul aux Colossiens qui dit « Le Christ tel que vous l'avez reçu, Jésus le Seigneur, c'est en lui qu'il vous faut marcher. » Nous sommes appelés à être des marcheurs. Elle est belle cette formule de Jacques Kerouac qui dit « Il faut imaginer le monde comme le rendez-vous des errants qui vont sac à dos, de l'avant, des clochards célestes. » Sommes-nous comme François d'Assise et comme Sainte-Claire, des clochards célestes qui refusent l'obligation de consommer tout ce qui est produit, de travailler pour pouvoir consommer et d'acheter toute cette ferraille inutile. Des clochards célestes, des hommes et des femmes qui choisissent un chemin de sobriété heureuse ou joyeuse. Ce chemin-là, c'est le chemin du Christ et le chemin de François d'Assise. Si nous lisons, si nous méditons, si nous nourrissons de cette lettre que le pape nous a adressée, Laudato si, nous comprenons cela. Comme le pèlerin qui marche sur le chemin de Saint-Jacques, nous désencombrer de tout ce qui alourdit notre sac à dos, de toutes ces richesses qui occultent notre vision du monde et des autres, et nous mettre en marche pour aller à la rencontre des autres, nous mettre en marche avec les autres et avec le Christ qui marche avec nous. Marcher, c'est une sagesse, c'est une philosophie, c'est un apprentissage de soi, une expérience du temps, c'est aussi une sorte de franchissement moral, c'est un sentiment de liberté, c'est une quête de soi, c'est une quête des origines, mais marcher, c'est nous mettre à la suite du Christ, mettre nos pas dans les siens, lui qui n'a cessé de le faire, et ses disciples, comme François d'Assise, qui n'ont cessé de le faire pour être aussi des annonciateurs de bonnes nouvelles. Alors ça ne veut pas dire que, à la sortie de ce temps de liturgie vespertine, vous allez vendre vos maisons, encore que, parfois, peut-être qu'on pourrait en vendre quelques-unes. Mais il y a des éléments de stabilité dont nous avons besoin aussi pour une stabilité familiale, et tout le monde n'a pas fait comme nous, engagement au célibat et vœu d'obéissance pour être disponible en un instant à l'appel du Seigneur. Mais comment, tout en ayant des éléments de stabilité dans nos vies, pouvons-nous être ces clochards célestes qui s'engagent dans une vie sobre et joyeuse, des chrétiens joyeux et heureux? Tout à l'heure, je suis arrivé un peu en avance dans le quartier, et j'ai circulé un peu, j'ai découvert qu'il y avait la maison de Charles Trenet, pas très loin d'ici. Il y a de la joie. Sommes-nous ces témoins de joie et de sobriété pour notre monde? Dans mon territoire, dans mon diocèse, il y a des hommes et des femmes qui cherchent des modes de vie joyeux et sobres, et qui les cherchent de mille manières dans des chemins pas tous cohérents, et qui ont parfois le sentiment que ce n'est pas l'Église catholique qui peut leur proposer ces chemins de sobriété joyeuse. On comprend pourquoi des franciscains et des dominicains ont été envoyés sur ces terres un peu austères de gens qui vivent pauvrement et sobrement. Parce que parfois, nos institutions qui se sont alourdies de richesses, de rituels parfois un peu désuets, ne témoignent pas de cette sobriété joyeuse de l'Évangile. Nous avons besoin, c'est peut-être pour cela aussi que je porte ce taux franciscain, de retrouver ces chemins-là, d'être ces pèlerins, ces vagabonds que le Seigneur veut voir à nouveau en route. Pourrions chanter, peut-être que certains d'entre vous connaissent ce vieux chant que je chantais moi-même quand j'étais jeune scout, « Vieux pèlerin qui vagabonde », vous savez, « Vieux pèlerin qui vagabonde, je suis partout un étranger, mais je suis sûr qu'en l'autre monde, Dieu va m'offrir où me loger. » Que nous soyons à nouveau ces pèlerins, ces marcheurs, à la suite du Christ. C'est le Christ qui nous met en route, qui nous remet debout. Une dernière phrase, qui n'est pas non plus d'un père de l'Église, mais il est beau d'aller trouver de la lumière là où parfois on ne s'attendrait pas à en trouver. Traque la lumière dans l'ombre, traque la lumière dans l'ombre, disait Gustave Thibon, qui avait fait une thèse sur Nietzsche. Nietzsche dit ceci: pour faire l'estimation d'un livre, d'un homme ou d'une musique, notre premier réflexe est de nous demander, sait-il marcher? Sommes-nous des marcheurs? Sommes-nous des marcheurs? Non pas sur la base de nos choix et de nos propres forces. Juste après le capitule, la lecture d'aujourd'hui de cette première lettre aux Corinthiens, il y a cette phrase dans le répond: pour le combat, tu m'emplis de vaillance. C'est le Seigneur qui nous donne la vaillance pour marcher, c'est le Seigneur qui nous remet debout et qui fait de nous des témoins du Christ. Amen.